7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
Bonjour et bienvenue les voisines et les voisins. Les femmes sont-elles l'avenir de l'Inde alors que l'Inde se déchire sur l'accès des femmes au temple hindou et que le torchon brûle avec son voisin le Pakistan? Le marathon électoral de la plus grande démocratie du monde débute le 11 avril et se poursuit jusqu'au 19 mai. 900 millions d'Indiens appelés aux urnes pour élire leurs futurs députés et surtout leur premier ministre. Une élection qui s'étalera sur 6 semaines opposant Narendra Modi, le premier ministre du Parti national hindou, BJP, à Rahul Gandhi, du Parti du Congrès. L'occasion pour 7 milliards de voisins de parler avec nos invités de la place des femmes dans ce scrutin et du véritable, et véritablement du poids des 450 millions de femmes qui s'apprêtent à voter. Nos voisines indiennes peuvent-elles changer la donne politique dans leur pays? Et nous reviendrons sur leur implication, leur engagement et leur combat. L'Inde, la politique et les femmes dans l'ère MeToo. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Virginie Dutoyard, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bien, parfaitement. Bon.
Vous êtes spécialiste de l'Inde au CNRS. Vous êtes auteur de la représentation des femmes dans les parlements de l'Inde et du Pakistan chez Dalloz.
C'est ça.
Sacré programme. Cléa Chakraverty, bonjour.
Bonjour Samira.
Et bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Inde, chef de rubrique Société et Internationale pour le site, attention, je fais attention, The Conversation, qui analyse l'actualité à partir de travaux de chercheurs. Bienvenue à vous deux. Alors, aujourd'hui, nous parlons des élections en Inde. Les élections législatives, c'est un exercice démocratique quand même qui est assez lourd. On parle de 9 étapes sur une durée de 6 semaines. Ça a l'air bien compliqué, dans un climat quand même assez électrique en Inde, un contexte politique, économique et social assez tendu. Alors, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Est-ce que déjà ces élections sont fortement attendues en Inde? Est-ce que les gens veulent absolument aller voter?
En général, les gens votent plutôt bien en Inde.
Enfin,
en
termes massivement de,
massivement. On a toujours des photos assez massives, parce qu'il y a beaucoup d'habitants en Inde. Ça dépend énormément des régions, hein, comme vous l'avez dit. C'est un exercice qui va quand même se dérouler sur un pays qui est à l'échelle d'un continent. Donc,
c'est ça.
Il y a des régions, typiquement au Cachemire, où la confiance, la défiance vis-à-vis de l'État est très forte, et où parfois il y a très peu de participation. Mais d'une façon générale, l'Inde est plutôt un pays où les gens participent aux élections. Et là, c'est vrai qu'après 5 ans de gouvernement du BJP, il y a, je ne dirais pas qu'il y a, une effervescence énorme autour des élections, mais en tout cas, il y a un vrai débat politique qui s'engage, sachant que, bon, par ailleurs, en Inde, vu qu'il y a... C'est une grande fédération, il y a toujours des élections quelque part. Hein. Donc c'est une espèce d'exercice politique continu.
Alors, pays gigantesque, deuxième population la plus importante au monde. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce contexte? Qui s'oppose à qui? C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on a le Premier ministre sortant qui est là depuis 5 ans, donc du parti BJP, et Rahul Gandhi du parti du Congrès. Comment vous voyez les choses?
Alors, en fait, vu que l'Inde est une fédération, c'est effectivement ça, c'est les deux principaux partis à l'échelle nationale. Et en général, c'est d'un de ces deux partis que sort le premier ou la première ministre. Mais en réalité, chacun de ces partis fait partie d'une coalition. Donc, la National Democratic Alliance. Enfin, il y a une grande coalition, disons, de la droite, plus ou moins hindoue selon les États, au centre duquel est le BJP, de laquelle est le BJP. Et puis, il y a une grande coalition de centre-gauche qui est celle centrée autour du Congrès. Et puis, vous avez aussi plusieurs autres coalitions, en fait. Une coalition centrée autour des partis communistes, hein, qui restent des acteurs importants en Inde, dans certains États. Et puis, vous avez d'autres plus petites coalitions, surtout autour de partis régionaux. Donc, en fait, c'est vrai que ça, c'est les deux principaux acteurs. Mais en réalité, selon les États, vous allez avoir d'autres partis qui sont très importants. Et si on pense spécifiquement aux femmes, on peut penser, par exemple, en Uttar Pradesh. Donc, il y a un grand État, je crois l'État le plus peuplé de l'Inde, du nord de l'Inde.
On va en parler.
Vous avez un parti qui s'appelle le BSP, Bahujan Samaj Party, qui Et dirigé par une femme, Dalit Mayawati. Et le parti qui, à mon avis, va sans doute présenter le plus de femmes aux élections, c'est un parti du Bengale, donc de l'Est de l'Inde, qui est aussi dirigé par une femme, Mayawati, qui s'appelle All India Trinamool Congress. Donc vous voyez, en fait, il y a plein d'acteurs au niveau régional, et c'est vraiment ça qui rend l'équation très difficile à anticiper sur ce que sera le résultat. Même si très probablement, ce sera soit le BJP, soit le Congrès. Ses résultats aux dernières élections étaient vraiment très 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 faibles. Enfin, 4 élus, on ne peut pas dire que ça faisait deux des présidents.
Au début. Enfin. Alors Cléa Chakraverty, vous revenez d'Inde. Alors, parlez-nous justement de la situation, de ce que vous avez ressenti. Est-ce que les gens s'affairent déjà, se préparent les élections? Enfin, les partis politiques, clairement, oui, et depuis longtemps. Et il y a énormément d'articles dans la presse. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau de la société indienne?
Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a aussi, et ça, on le voit beaucoup dans la presse indienne, mais aussi dans les discours des gens avec qui on peut discuter, c'est que la polarisation que connaît l'Inde depuis à peu près 5 ans s'est exacerbée. C'est surtout ces derniers mois, typiquement d'autant plus avec les derniers événements qui sont passés avec le Pakistan, vous l'avez mentionné un petit peu au début, et avec la situation en Cachemire évidemment, mais aussi qui est le résultat d'une politique dure, on va dire, de la droite, du BJP qui est au pouvoir, de ses alliés, de ses idéologues.
Qui instrumentalise un petit peu la géopolitique, tout ce qui se passe, les tensions religieuses.
Oui, absolument.
Entre minorités.
Les discours, en tout cas, des gens avec qui j'ai pu passer un peu de temps ou avec qui j'ai pu discuter de politique, on va dire, des élections, sont plutôt à la fois dans une forme d'attentisme, puisqu'ils sont quand même, en tout cas ceux avec qui j'ai pu parler, sont quand même assez convaincus que le BJP sera de nouveau au pouvoir, mais pas forcément avec la majorité qu'il a eue en 2014. En 2014, on a vu quand même une très forte adhésion, en tout cas un vote très important, notamment issu des jeunes, des 18-25 ans, pour ce parti politique et pour les alliances qu'il proposait. Virginie a sûrement des chiffres plus précis. Mais effectivement, c'est une adhésion qui était à une campagne, à des promesses électorales, à une certaine vision de l'Inde, en tout cas par Narendra Modi, le Premier ministre.
Et là, le bilan n'est pas très bon. Pourtant, il laisse mettre en avant qu'il y a beaucoup de réussites, surtout sur le plan économique,
les chiffres du chômage sont pas forcément bien connus. Oui. Il y a 4 jours, il me semble, un appel de 108 économistes indiens ou d'origine indienne en Inde et à l'étranger pour alerter sur la politisation des statistiques indiennes, en disant qu'on n'a pas accès aux statistiques. Dans un état de droit, un état démocratique, ce n'est pas normal de n'avoir pas accès aux bonnes statistiques, à l'impossibilité de faire un travail statistique de qualité, surtout au moment des élections où beaucoup de droits ont été quand même bafoués. Beaucoup de gens avec qui j'ai pu discuter sont donc très circonspects par rapport à ces élections, par rapport à la transparence aussi vis-à-vis dans certains États. Beaucoup aussi souhaitent utiliser le droit, alors ce qu'on appelle le NOTA, None of the Above, qui est, il me semble, une mesure qui a été mise en place et généralisée à partir de 2013 dans tous les États indiens. Il me semble que c'était déjà en place dans certains États, ou si vous voulez, vous pouvez, alors contrairement à la France, où on peut par exemple voter en disant je souhaite voter pour aucun des candidats représentés, donc le vote est considéré comme invalide.
D'accord.
Voilà, mais
c'est
en tout cas,
un vote blanc.
Alors, c'est un vote blanc qui va être comptabilisé
blanc.
En fait.
Voilà.
Sachant que de toute façon, en Inde, vu que c'est un système à un seul tour, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de 50% des suffrages exprimés comme en France. En fait, c'est juste vous pouvez remporter l'élection avec 20% des suffrages si personne n'a eu plus. Donc ça permet juste de montrer encore mieux, si je puis dire, que le candidat gagnant n'a pas remporté l'adhésion de tout le monde. Mais c'est encore très marginalement utilisé, et principalement par des gens qui sont effectivement assez politisés, plutôt à gauche, etc.
Donc aujourd'hui, rien n'est joué. On va spécifiquement parler des femmes. On le sait, elles ne sont pas absentes de la scène politique, à l'instar de Pratibha Patil, présidente de l'Inde de 2007 à 2012, et de Priyanka Gandhi, puisque ce sont quand même celles qui sont plus les têtes d'affiche, en gros. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Priyanka Gandhi, petite fille d'Indira Gandhi, nommée le 23 janvier dernier, secrétaire général du parti d'opposition, donc le parti du Congrès, en Uttar Pradesh, donc un état déterminant. Depuis 1992, un tiers des élus locaux sont des femmes, mais sur 543 sièges que compte la chambre basse du Parlement, elles ne sont que 61 femmes à y siéger. Alors, on n'arrive pas à comprendre, on se demande pourquoi ce plafond de verre, ce plafond de verre incassable finalement en Inde. Alors que la présence des femmes dans la politique est quand même, c'est une histoire assez longue. Alors, et importante.
C'est quand même amusant de poser cette question en France, puisque finalement on a eu exactement le même problème pendant très longtemps. Et la solution a été de mettre en place les lois de parité. Hein. Donc en Inde, depuis en fait 96, on discute de l'opportunité. Vous avez évoqué le fait qu'un tiers des élus locaux étaient des femmes, voire même plus dans certains États. C'est parce qu'il y a des quotas. Et du coup, depuis 96, il y a le projet de mettre en place des quotas, y compris au Parlement.
Alors c'est intéressant parce que c'est, il y a des quotas, mais qui ne s'appliquent pas partout.
Pas à tous les niveaux, en fait.
Pourtant, en 92, le quota a été voté assez...
Oui, mais qu'au niveau local.
Au niveau local, simplement. Pourquoi on n'arrive pas à l'imposer au Parlement ?
Alors, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire. Vu que 90% des législateurs sont des hommes, en fait, le système de quotas en Inde fonctionne de façon assez différente d'en France, puisqu'en fait, c'est vraiment les circonscriptions qui sont réservées aux femmes. Donc, techniquement parlant, ça veut dire que une fois toutes les trois élections, votre siège, si vous êtes un homme, ne sera plus disponible, puisque vous pouvez... C'est pas comme en France où finalement vous pouvez espérer garder votre place. Donc dans un système politique qui est quand même où l'ancrage local est important, comme en France d'ailleurs, ça veut dire pour les hommes un vrai problème en termes de carrière, puisqu'à un moment ou l'autre ils ne pourront plus se présenter puisqu'ils ne seront pas des femmes.
Donc là, ce sont des sièges réservés voilà, aux femmes.
C'est ça qu'on donc. Évidemment, ça suscite énormément de résistance. Après, c'est vrai que la façon dont a été exprimée cette résistance, elle est intéressante parce que c'est un des grands problèmes de la politique féministe en Inde et ailleurs, mais en Inde, c'est peut-être plus exprimé, plus explicite. C'est que il a été dit, oui, mais le problème, c'est que si on fait ces réservations, ça va bénéficier à certaines femmes. Notamment aux femmes hindoues et pas aux femmes musulmanes, aux femmes de haute caste et de haute classe et pas aux
donc
femmes...
Donc ça va creuser les discriminations...
Contre certaines femmes. Oui. Donc du coup, c'est un peu autour de ça que s'est concentré le débat. Bon, ça c'est la rhétorique officielle, moi que j'avais travaillé là-dessus, bon, clairement, un certain nombre d'hommes me disaient que ça les arrangeait pas, quoi, ce que je peux comprendre. Hein. Évidemment, pour eux, c'était pas une très bonne nouvelle si cette loi passait. Donc voilà. Et après, c'est vrai que les femmes qui sont en général au pouvoir en Inde ne sont pas des féministes. Mais ça c'est vrai aussi en France. Hein. On a eu quelques femmes politiques féministes. Si Marine Le Pen devenait présidente de la République en France, je ne suis pas sûre que d'un point de vue de la politique féministe...
Ça changerait quelque chose pour les droits des femmes.
Voire même, ça poserait problème sur certains points. Enfin, très probablement,
alors,
ça poserait
justement,
problème.
Justement, Cléa Chakraverty, vous, encore une fois, vous revenez d'Inde. Donc là, parlez-nous justement des profils de ces femmes en politique. Pourquoi ce sont toujours des femmes, on a l'impression, qui font partie de l'élite. Alors ça peut être la femme d'une personnalité importante. Alors pourquoi ça n'avance pas? Quels sont les profils de ces femmes engagées en politique?
Ça me semble compliqué de devoir catégoriser comme ça les profils et l'engagement aussi de certaines femmes. À mon sens, donc, comme l'a très bien dit Virginie, il y a des femmes politiques en Inde qui ne sont pas du tout féministes et en tout cas qui ne jouent pas cette carte-là. C'est le cas de Mamata Banerjee, par exemple, au Trinamool, au Bengale, qui ne joue pas du tout la carte du féminisme, qui est une femme qui vient d'un milieu social plutôt modeste, qui joue sur un système d'alliance qui situe aussi dans certaines zones un petit peu grises de la politique de la ville, qui ne sont pas que des alliances, on va dire, très propres, si on peut utiliser ce terme-là, qui est quelqu'un qui s'est imposé par le pouvoir, par ses propre contact, qui a émergé aussi dans le monde syndical, parce que le Bengale et Calcutta en particulier ont une longue tradition communiste avec des syndicats très forts, donc ça c'est un type de profil, mais c'est pas du tout c'est vraiment très particulier à cette personnalité-là. Vous avez des gens comme effectivement Mayawati, que Virginie a mentionné, qui elle vient du milieu des Dalits, donc des hors-castes, qui ont encore un profil différent. Vous avez des gens effectivement...
Donc il y a beaucoup de diversité.
Il y a énormément de diversité, et c'est des femmes qui se retrouvent pas forcément, enfin, je pense qu'on met rencontrer Mayawati, Mamata Didi et Priyanka Gandhi ou Sonia Gandhi dans un salon, on n'aurait pas du tout les mêmes sujets de discussion, hormis la politique peut-être.
Voilà. Mais toutes des animales politiques.
Ce sont des gens qui sont très forts quoi, en politique, qui sont dans l'image, qui sont en contrôle de l'image. Donc c'est pas forcément des féministes, même Sonia Gandhi. Ou Priyanka Gandhi n'affiche pas forcément une fibre féministe.
Priyanka Gandhi, qui a un profil quand même assez intéressant, mais qui, encore récemment, ne voulait pas forcément s'impliquer en politique. Alors, qu'est-ce qui a fait que, le 23 janvier dernier, elle se retrouve secrétaire générale d'un parti, comme le Parti du Congrès ? Surtout qu'on dit d'elle qu'elle a quand même plus de charisme que son frère, très bonne oratrice, une vraie personnalité, mais bon, fait partie d'une dynastie quand même au pouvoir.
Je pense que Priyanka Gandhi, c'est un cas. Enfin, on ne peut pas dire. Elle a toujours été un peu dans un entre-deux politique. Alors, bon, moi, je peux comprendre qu'elle n'ait pas spécialement
vers
la politique, oui. Puisque sa grand-mère a été assassinée, son père aussi. Donc, bon, finalement, elle a de bonnes raisons de se dire que ce n'est pas forcément le meilleur.
Mais aujourd'hui, elle y est.
Alors, elle a toujours joué ce rôle un peu de conseillère, etc. Effectivement, il y a toujours cette idée qu'elle aurait plus de charisme que son frère, qu'elle serait plus. Forte politiquement que son frère. C'est quelque chose qu'on entend aussi parfois au Pakistan, d'ailleurs sur les enfants de Benazir Bhutto. Mmh. Alors pourquoi est-ce que c'est son frère et pas elle ? Il y a peut-être des questions d'appétence personnelle, il y a peut-être des questions de préférence pour les garçons. Un des gros handicaps quand même de Priyanka Gandhi dans la vie politique, c'est son mari, qui est notoirement corrompu, etc. Enfin, qui participe quand même d'une image du Congrès comme la vieille famille politique qui s'accroche au pouvoir et qui s'est enrichie par ce biais-là. Bon, même si les Nehru ou Gandhi n'ont jamais eu besoin du pouvoir pour être riches, hein, c'était déjà une famille de l'élite au début du XXe siècle. Mais en tout cas, Priyanka Gandhi, elle a toujours eu ce rôle un petit peu, finalement, comme sa mère, c'est-à-dire de très centrale, mais en même temps, alors sa mère a été élue. Mais en même temps, finalement, elle est plus dans des rôles de conseillère, de gestion du parti, que dans des rôles électoraux et donc potentiellement de première ministre. Est-ce que ça va évoluer plus tard ? C'est difficile à dire, mais voilà, je pourrais pas dire pourquoi est-ce qu'elle ne s'investit pas plus, mais de toute façon, elle a peu d'autres options possibles au final. C'est pas comme si elle pouvait faire une carrière. De maîtresse d'école ou que sais-je.
Alors on va continuer à parler des profils de ces femmes indiennes engagées en politique. On va peut-être aussi parler de chiffres, de pourcentages de celles qui sont élues, de celles qui vont peut-être, qui ont envie d'avoir un rôle politique. Et puis je vous lirai tout à l'heure un message Facebook que nous avons reçu autour de la solidarité des femmes dans l'engagement politique. sous nos mairies à Vaz de Anan Murti Guruma. Sounou, j'ai appris que c'était écoute.
Hein, c'est ça.
Merci. Mais vous parlez, quoi. C'est trop fort. Je suis admiratrice. Vraiment, je vous admire. Donc, cette chanson, merci Romain, parce que très belle chanson. C'est lui qui nous l'a choisie. La chanson de Anand Murti Guruma dépeint des femmes surpassant les hommes dans tous les autres domaines. Cette chanson annonce une époque où les filles sont suffisamment compétentes pour dépasser les garçons. Alors, elle est chantée avec une vision de fille ambitieuse. La chanson rappelle aux filles de s'élever plus haut que leurs rêves. Donc, 7 milliards de voisins, aujourd'hui nous parlons des élections législatives en Inde et de la place des femmes dans ce scrutin, femmes politiques ou militantes. Quelle est leur implication dans la société indienne et leur impact aussi sur la vie politique de la plus grande démocratie du monde? Les voisins, vous le savez, vous pouvez réagir à travers des questions, à travers Facebook, sur WhatsApp aussi au 33 1 84 22 71 71. Alors l'Inde, la politique et les femmes dans l'ère de MeToo, nous continuons à en parler avec nos invités, Virginie Dutuya et Cléa Chakraverty. Alors, des femmes fortes, ambitieuses. Alors, tout à l'heure, on en parlait, il y a beaucoup de diversité quand même dans les profils de ces femmes. C'est un pays qui est énorme. Il faudra attendre le 23 mai pour connaître les résultats de cette élection, mais on peut d'ores et déjà parler quand même de ces femmes qui sont très présentes dans la société, qui sont très engagées, de celles qui sont justement des têtes d'affiche, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus discrètes, des étudiantes, des jeunes femmes entrepreneuses qui aussi ont un rôle politique dans la société indienne, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Il y a... Cléa, vous revenez d'Inde. Encore une fois.
Encore une
Dites-nous.
Fois. J'ai surtout passé pas mal d'années aussi.
C'est vrai.
Et voilà.
Toutes les deux, d'ailleurs. Vous avez fait beaucoup d'allers-retours, donc vous savez de quoi vous parlez. C'est pas.
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, effectivement, vous avez raison, Samira, c'est les engagements politiques et la participation politique des femmes. On ne peut évidemment pas la cantonner à la participation dans les élections, qu'elles soient législatives ou locales. Mais aussi dans un engagement qui est plutôt un engagement du quotidien, j'ai envie de dire, qui a commencé d'ailleurs, vous aviez évoqué MeToo, mais bien avant MeToo en ce qui concerne l'Inde, puisque les problèmes malheureusement de harcèlement sexuel
dans les rues, dans les bus,
de façon beaucoup plus cash, sont des problèmes quotidiens dont on a entendu parler en France, je pense peut-être de façon aussi forte avec le viol de 2012. Qui a secoué Delhi, et pas que Delhi d'ailleurs, le monde entier à ce moment-là. Mais l'engagement des femmes, il a plusieurs, vous le trouvez à plusieurs niveaux. Vous l'avez, j'ai envie de dire, au niveau ce qu'on appelle le grassroots, vraiment la base, l'organisation des associations locales, des femmes qui se prennent en main dans les villages, dans des groupes de villages, parce qu'il y a des soutiens associatifs qui peuvent être religieux, culturelles, sous couvert par exemple de défendre certains aspects, elles vont se mobiliser, je pense notamment dans certains états au nord-est de l'Inde qui sont très chrétiens, vous avez des forts engagements à cause des paroisses par exemple, pour simplement empêcher les hommes de boire. Donc ça, on peut trouver ça peut-être agressif par certains moments, mais vous avez des femmes qui vont s'associer, qui vont aller essayer de faire fermer les débits de boissons par exemple. Donc ça, c'est un type d'engagement.
C'est aussi un engagement politique.
Tout à fait. Public, en fait. Hein. Mm-hmm. Mais vous avez aussi des femmes qui vont lutter pour leurs droits sur la scène religieuse, encore une fois, que ce soit les musulmanes, par exemple, qui ont réussi, pas que les musulmanes, mais d'ailleurs avec un certain soutien de féministes en Inde, et d'un public aussi, réussi à faire condamner une loi qui permettait de divorcer par SMS, hein, si vous voulez. Ouais. le triple talak, comme on dit. Vous avez aussi
Tout à fait. La répudiation.
Ouais. Vous avez des femmes qui ont très récemment, début janvier, on pourra en parler peut-être un peu plus tard, je ne sais pas, mais qui ont quand même lutté pour rentrer dans un temple hindou.
On peut en parler, voilà. C'est vrai, tout à fait. On peut en parler tout de suite. Des femmes hindouistes qui n'avaient pas le droit, celles en âge entre 10 et 50 ans, il me semble, qui n'avaient pas le droit d'aller prier dans un temple parce qu'elles étaient susceptibles d'avoir leurs règles et du coup étaient considérées comme impures. Donc, la Cour suprême a autorisé ces femmes à pouvoir intégrer, enfin aller se rendre à ces temples. Et ça n'a pas plu à tout
oui,
le monde.
Oui, sachant qu'une des deux femmes était de basse caste ou même Dalit, je crois. Mm-hmm. Donc ça a été encore plus un affront, on va dire, par rapport aux autorités religieuses. Puisque voilà, on a la question de la souillure en Inde qui est quand même très importante et qui est omniprésente dans la vie quotidienne.
Mais la Cour suprême a tranché. D'ailleurs, une seule femme parmi les juges n'était pas s'est opposée, il me semble, à ce vote. Je vous dis ça parce que ça me fait penser à notre message, un message d'un auditeur, à Aziz, qui nous écrit du Bénin sur Facebook et qui nous dit « Avec une solidarité entre femmes, il est sûr que la donne change. » Est-ce qu'il y a cette solidarité? Est-ce que c'est présent, cette solidarité entre femmes en Inde, entre femmes politiques en Inde? Ou c'est toujours le même problème, un peu comme en France, partout ailleurs d'ailleurs?
Alors, la solidarité entre femmes et entre femmes politiques. Alors, on va d'abord restreindre aux femmes politiques. Il n'y a pas... En général, dans la vie politique, la solidarité première, c'est celle du parti, quand même. Hein,
ce qui est loyauté au parti.
Voilà, ouais. Mais ce qui, en un sens, est logique dans un système parlementaire. La première loyauté que doit avoir un élu, c'est vis-à-vis de son parti. Donc... C'est quand même quelque chose de très fort. Mais c'est vrai que sur certaines lois qui concernent spécifiquement les femmes, et notamment d'ailleurs cette loi dont on a parlé, enfin ce projet de loi sur les quotas, on a pu voir des alliances entre femmes qui dépassaient, qui transcendaient les frontières partisanes. Bon, même si officiellement tous les partis quasiment soutiennent la loi, ce qui est d'autant plus paradoxal, mais... Du coup, vous avez quand même des sujets sur lesquels vous allez avoir des positionnements féminins, peut-être pas féministes, qui transcendent les frontières partisanes et on pourrait parler de certaines formes de solidarité. Y compris aussi des formes de protection entre les femmes vis-à-vis d'élus, de personnalités connues pour leur sexisme, etc. Après, la solidarité entre les femmes en général, c'est un peu les mêmes choses. C'est-à-dire que être une femme, ça peut être un point de convergence, c'est sûr, mais ça n'efface pas les autres frontières, les autres barrières qui existent, qui sont liées à la caste en Inde, qui sont liées à la
classe,
à la religion,
à
la sexualité, et au fait qu'on peut avoir une définition différente de ce que sont les intérêts des femmes. Donc du coup, il y a bien sûr beaucoup de formes de solidarité féminine, qu'elles soient explicitement féministes ou non en Inde. C'est aussi une société quand même qui valorise beaucoup une sociabilité, enfin les amitiés entre personnes de même sexe, on va dire, hein, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Donc c'est vrai que vous avez beaucoup d'espaces de sociabilité qui sont presque exclusivement féminins et inversement masculins. Donc ça aussi, ça peut renforcer des formes de solidarité. Après, c'est vrai que culturellement, il y a cette idée qui est très forte, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup de pays, de la relation entre la belle-fille et la belle-mère, entre une jeune femme et la mère de son mari, on va dire, qui est censée être la relation finalement la plus oppressante pour une jeune femme. Et voilà. Alors c'est à la fois un mythe qui est très exploité dans le cinéma, dans les séries télé, etc. Et dans le même temps, qui recouvre des réalités socio-économiques qui sont liées directement en fait à la domination des hommes, qui font que pour avoir du pouvoir, une femme doit à un moment...
Mais pour revenir aux initiatives dont vous parliez, Cléa, tout à l'heure, il y avait celle-là concernant les temples, et je parlais de 2016, et je parlais d'Hindou Malhotra qui s'était opposée, justement, c'était la seule femme juge qui s'était opposée, mais comme vous le dites, c'est pour tout simplement des idées religieuses. Mais il y a d'autres initiatives également, comme le Pink Shadi, la Saint-Valentin, par exemple.
Oui, tout à l'heure, juste avant de revenir sur l'initiative Pink Shadi qui était en 2009, je voulais juste ajouter un point par rapport à ce que vient de dire Virginie pour aller dans son sens, c'est qu'effectivement vous avez ces formes de tension chez les femmes, tout simplement parce que aussi le patriarcat qui existe en Inde est extrêmement
ancré. Qui les renforce, oui.
Il est renforcé, il est intériorisé et il définit la société indienne. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'en Inde, tout tourne autour de l'homme. À partir du moment où vous avez un enfant, si c'est un garçon, tout tourne autour de lui. Donc effectivement, la relation entre la belle-mère et la belle-fille, et sa bru, tourne autour du garçon. Donc forcément, les tensions sont extrêmement fortes. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, que ce soit à Sabarimala,
en janvier 2019, quand ces femmes sont entrées dans le temple, il y avait des femmes qui avaient envie de leur jeter des pierres au même titre que les hommes, qui trouvaient ça absolument pas normal, qu'elles ne se veulent pas se plier à cet ordre établi. Donc pour en revenir aux initiatives qui ont pu se passer, et c'est là effectivement pour répondre au message de la personne sur Facebook, il y a des solidarités, heureusement, il y en a beaucoup, et elles s'expriment de façon très différente. Je dois dire, moi, celle que je connais en tout cas, c'est plutôt une forme de solidarité qui existe dans des initiatives prises par des jeunes femmes et aussi des jeunes hommes féministes, parce que heureusement il y en a aussi en Inde, mais plutôt des classes, on va dire, anglicisées, urbaines, éduquées, mais qui ont envie quand même de faire changer les choses à leur niveau. Et Pink Chaddi, ça veut dire, alors Chaddi en fait ça veut dire la culotte, donc ça veut dire les culottes roses, et c'est quelque chose qui s'est passé en 2009 au moment de la Saint-Valentin.
2010-2011
oui, il me semblait que c'était en 2009, mais c'est possible, c'était à peu près cette période-là, où vous aviez donc un groupe d'extrême droite nationaliste, enfin plutôt surtout très, très conservateur, qui s'était opposé à la célébration de la Saint-Valentin dans un pub, dans la ville de Bangalore, donc au sud de l'Inde. Et donc, il y avait tabassé des jeunes couples qui se retrouvaient à ce moment-là, donc notamment des filles, en disant qu'ils allaient les marier de force, puisque finalement, elles se retrouvaient avec des hommes, voilà, qu'elles ne n'étaient pas le mari, dans ces pubs, en adoptant des mœurs occidentales. Et donc, cette jeune femme qui s'appelle Nisha Suzanne, qui était à l'époque journaliste chez TLK, un magazine plutôt de gauche, avait qui n'existe plus vraiment actuellement, mais qui avait eu l'initiative d'envoyer en fait, à peu près un millier de culottes roses aux membres, aux militants de ce groupe, en signe de protestation. Je crois qu'elle en avait finalement, j'en avais envoyé 500. Elle avait lancé une campagne sur Facebook à l'époque, et ça avait fait pas mal de bruit, parce que c'était un acte à la fois humiliant pour les membres de ce groupe militant. Et à la fois assez drôle, en fait. Et voilà, c'est ce type d'initiative qui a pu un peu faire parler de certains groupes.
Mais est-ce que ça fait véritablement bouger les lignes?
Moi, j'ai l'impression que ça a pu faire bouger les lignes, au sens où ça a fait du buzz, ça a donné d'autres idées. À peu près à la même époque, il y a des collectifs qui se sont montés autour d'ailleurs, il y a un ouvrage qui s'appelle Why Loiter, pourquoi flâner, en fait, qui invoque le droit à la flânerie et qui a mobilisé beaucoup de femmes et dans des groupes de femmes à travers les villes en Inde et aussi au Pakistan. Pour reprendre l'espace public.
C'est intéressant d'en parler, parce que c'est une problématique qui existe dans d'autres pays où l'espace public, la rue, n'appartient plus aux femmes, finalement. N'appartient pas aux femmes.
Absolument.
Et du coup, on aurait le droit de...
La rue, mais si vous voulez, le droit de traîner, quand on ne se rend même plus compte. Mais moi, quand je suis rentrée de l'Inde en 2013, le simple fait de pouvoir faire une sieste dans un parc où personne n'allait me regarder dormir... C'était juste génial. Enfin, là, vous avez juste... Déjà, il y a des parcs, c'est déjà pas mal. Ce droit de... Voilà, vous avez envie de... Je sais pas, de boire de l'alcool, de fumer une cigarette, de vous balader avec des copains, de vous habiller comme vous voulez.
Les femmes peuvent fumer dans la rue en Inde?
Elles le font. Elles peuvent. Personne ne les empêche. Hein, mais simplement, le fait, par exemple, de pouvoir simplement flâner avec des copines à 10 heures du soir, sans but précis, c'est quelque chose qu'on va... assez peu, finalement. C'est toujours ce qui explique notamment les auteurs de ce livre, c'est vous, finalement, les femmes sont dans une logique productiviste. C'est-à-dire qu'il faut, sans rentrer vraiment dans un vocabulaire trop marxiste, mais c'est-à-dire que toujours vous êtes en train de vous balader pour une raison. Vous allez attendre un arrêt de bus, vous allez sortir votre téléphone portable, des stratégies qu'on a évoquées aussi en France, en Occident, c'est pas du tout les.
Donc ce sont des femmes, des hommes aussi, quelquefois, plutôt lettrés, éduqués, qui montent ce genre de mouvement et qui essaye de changer les lignes. Est-ce que ça change vraiment? Je sais qu'il y a eu la dépénalisation de l'homosexualité. MeToo, on peut en parler aussi. MeToo en Inde, c'était quand même assez étonnant.
Oui.
Ou ça reste anecdotique?
Non, ça reste pas du tout anecdotique. Je pense que pour le coup, ça a quand même... Là aussi, il faut toujours différencier. C'est difficile de savoir quel impact ça va avoir sur le long terme. Est-ce que ça va vraiment faire évoluer les choses? Après, ça peut toujours faire tomber quelques têtes et c'est satisfaisant. Soyons honnêtes. Oui. On a eu un sourire quand on a parlé de TLK, parce que justement, ça avait été un de ces magazines. Alors, c'était avant MeToo, je dirais.
Tout à fait, oui. C'était en 2000.
Qui s'affichait très progressiste, très à gauche, et qui l'était à bien des égards. Mais le fondateur, enfin, en tout cas, une personne qui avait une place importante, a finalement été accusé et plus ou moins. enfin c'est, ça s'est avéré assez avéré, on va dire, de alors, je ne sais plus si c'était un viol,
harcèlement sexuel
ouais. Etc. Donc voilà, il y a un certain nombre d'affaires qui aboutissent, d'autres non. En Inde...
Mais rien que le fait d'en parler, de pouvoir en parler, de s'exprimer... C'est un vrai changement.
C'est un vrai changement, mais moi j'ai envie de dire que les Indiens n'ont pas du tout attendu MeToo pour en parler.
Oui, c'est ça.
Voilà.
L'affaire TLK,
c'est un exemple. Il y en a eu d'autres. Il y a énormément de cas de harcèlement effectivement sur l'espace public. Les femmes qui se rendent au travail, qui ne sont pas en sécurité, c'est quelque chose qui est... Donc c'est pas un harceleur connu forcément. MeToo a certainement révélé, comme l'a souligné Virginie, des cas dans une certaine société indienne où peut-être les femmes aurait pu se sentir préservée, notamment les journalistes. Mais en 2012, ce qui s'est passé en 2012, le viol de 2012, ce qu'on appelle Nirbhaya symboliquement en Inde, cette affaire-là a aussi déclenché une série de réactions avec des comités au niveau législatif qui sont montés. Vous avez les femmes se sont réellement engagées sur ces questions-là, mais vous avez aussi une prise de conscience à l'extérieur. Et ça a été très important. Mais à tel point que il y a même des clichés où aujourd'hui on est dans un forme aussi de cliché de dire que Delhi, par exemple, est la capitale du viol, que l'Inde... vous avez des sondages qui sont sortis, des chiffres montrant que l'Inde était un des pays les moins sécurisants pour une femme qui voyagerait seule. Les autorités... pour les touristes disent attention aux femmes qui ont voyagé seules en Inde. Donc il y a aussi l'autre travers, si vous voulez, c'est qu'on exagère aussi les faits. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas attendu MeToo en Inde pour s'exprimer sur ces questions-là. Bien au contraire, j'ai envie de dire.
Et pour monter des initiatives, pour essayer de faire avancer les choses. On va continuer de parler de ces initiatives-là. On va parler de chiffres, peut-être, parce que c'est important. Et puis, parler d'autres femmes qu'on n'entend jamais, peut-être dans les milieux ruraux aussi. अंग अंग बाजे मृदंग सा सुर मेरे जागे सांस सांस में बांस बांस में धुन कोई साजे गाए दिल ये गाने लगा है मुझको आने लगा है खुद पे ही ताल ताल दे झूठे हवाएं खेत खेत ने रेत रेत ने फैला दी बाहें आई है सिंदूरी सुबह आई धुलती जाए सियाही रातों की Supra Mudgal, là aussi c'est une chanson féministe et populaire qui dénonce le patriarcat en Inde, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça la clé, c'est ce qu'on disait hors antenne. Je vous demandais qu'est-ce qui peut vraiment changer la donne, et j'ai adoré votre réponse, donc il faut absolument la partager aux auditeurs de 7 milliards de voisins. Cléa.
Oui, pardon, on disait effectivement hors antenne, poser la question Samia, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer, et c'est vrai qu'on parle toujours de l'éducation des petites filles et des filles, qui est un vieux sujet en Inde, comme ailleurs d'ailleurs.
Un marronnier, vous disiez.
Voilà, un marronnier qu'on ressasse. Et effectivement, la clé, c'est surtout l'éducation des garçons, plus que l'éducation des filles, parce que je pense qu'elles sont suffisamment éduquées comme ça, même si elles peuvent toujours, on peut toujours mieux faire, c'est sûr. Et sur cette question de la place qu'on donne aux femmes, que les femmes peuvent prendre surtout dans la société indienne, on le voit de toute façon aujourd'hui. Voilà, vous avez évoqué la culture populaire avec la musique. On le voit de plus en plus grâce à des films, une littérature aussi féministe, de fiction, de non-fiction, des initiatives de théâtre. Vous avez aujourd'hui du stand-up qui a pris énormément d'ampleur depuis 4-5 ans en Inde. Avec,
et beaucoup de femmes.
Avec beaucoup de, alors, pas beaucoup de femmes, enfin, comme disent les stand-upers féministes que j'ai pu rencontrer. Pour 10 hommes, vous n'avez qu'une seule femme. Dans le public, ce sont des hommes qui rigolent. On fait encore des blagues sur les règles et ça fait marrer les hommes. Voilà. Et aujourd'hui, comme d'autres, ont un discours qui est beaucoup plus fort, et surtout elles ne sont plus prêtes à entendre certaines choses. Donc ça, c'est quelque chose qui a peut-être à changer, qui est en train de monter. Après, est-ce que ça va permettre de faire fléchir la donne au terme des élections? J'en suis moins sûre. Mm-hmm. Mais bon, peut-être que Virginie, tu as une autre, regard sur les élections.
Oui, je vous demandais, Virginie, d'ailleurs, tout à l'heure, combien on a de femmes pour ces élections. Vous me disiez, mais on ne le sait pas encore.
Non,
pourtant,
pas
beaucoup
encore.
De partis draguent les femmes aujourd'hui.
Oui, alors...
comme toujours, d'ailleurs.
Les draguent, voilà, comme vous l'avez dit. Alors, les femmes ne sont pas tout à fait 50% de la population indienne, c'est un autre problème, mais bon, elle reste quand même une partie importante de l'électorat, donc aucun parti ne peut faire complètement l'impasse sur les femmes.
Surtout qu'il y a des places réservées.
Voilà, mais en même temps, il y a peu de partis quand même qui développent un discours qui serait explicitement... les femmes sont une catégorie parmi d'autres, et on considère en général que c'est pas... à partir de leurs intérêts liés à leur genre, que les électrices se positionnent sur l'échiquier électoral.
Le parti du Congrès propose quand même de donner des sièges aux femmes, et surtout de leur attribuer des emplois.
Oui. Non, il y a toujours... Tous les partis, quasiment, ont une section de leur programme qui cible spécifiquement les femmes. Alors, le Congrès, effectivement, fait ce genre de proposition. Beaucoup de partis ont repris aussi ce projet de quota et l'ont réintégré et ont redit qu'ils le défendraient. Mais c'est vrai que le gros de la mobilisation, il va... en général, notamment en milieu rural, etc., il va souvent se faire d'abord sur des bases religieuses, oui. Sur des bases de caste, etc. Ça reste, je ne sais pas si c'est la façon dont les électeurs, eux, réfléchissent, et les électrices, mais en tout cas, ça reste en général la façon dont les partis envisagent leur électorat. Il y a cette idée en Inde qu'on a des banques de vote, et les lignes de fracture, c'est plutôt la caste, la religion, que le genre. Mais peut-être que ça va évoluer, et en tout cas, je pense qu'en milieu urbain, dans des villes comme Delhi, mais sans doute aussi à Bombay, à Calcutta, enfin à Mumbai, l'électorat féminin et les préoccupations des femmes sont de plus en plus considérées comme pertinentes par les partis. Ce qui ne veut pas dire qu'elles le sont moins en milieu rural. Hein. Je parle là de représentation qu'ont les partis.
Concernant les quotas, je reviens encore dessus parce que ça me choque. Je me dis, mais on est si près du but. Au Parlement, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il y a un espoir?
Il y a toujours D'abord, la politique, il y a toujours une part d'imprévisibilité. Et encore plus en Inde,
vous le disiez.
Mais c'est-à-dire, le paradoxe de cette loi, c'est que la grande majorité des partis la soutiennent officiellement. Donc si un parti a le courage de vraiment la mettre à l'agenda et de vraiment museler, entre guillemets, l'opposition qui a été très violente au sein du Parlement, ça pourrait passer. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit dans les projets d'un parti ou d'un autre. Mais l'Inde m'a déjà beaucoup... Enfin, l'Inde. Le Parlement indien m'a déjà beaucoup surprise. Donc, à voir. En tout cas, ça sera à la prochaine législature, a priori, d'en décider. Et on verra à quoi elle ressemble.
Je voudrais partager avec vous ce petit message de Crépin de Goma, en République démocratique du Congo, qui invite tous les Indiens à voter pour les candidates qui se présentent, donc pour les aider. Ça va vraiment dans ce sens. Et beaucoup d'auditeurs nous parlent de solidarité féminine. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je voudrais vous remercier, vous dire qu'on va vraiment suivre de près ces élections. Vous y êtes à fond, évidemment.
Oui. Bon, on a une vie à côté aussi. Oui, on va suivre. Enfin, moi, en tout cas, je vais suivre.
Vous y retournez bientôt, Cléa ?
Pas tout de suite, non. Pas dans l'immédiat, mais je vais suivre avec, notamment avec mes amis qui sont sur place. Et puis, effectivement, je vais regarder ça aussi de près.
Mais beaucoup d'espoir, j'imagine, pour vous deux. Non, ça va pas...
Alors,
pas
moi, pour moi. Politiquement, je suis pas quelqu'un qui croit beaucoup à la démocratie représentative.
Mais si, il faut avoir de l'espoir, en tout cas. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous, Virginie Dutheuilla. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Inde au CNRS, auteur de la représentation des femmes dans les parlements de l'Inde et du Pakistan chez Dalloz. Et Cléa, merci à vous. Cléa Chakraverty, vous êtes journaliste spécialiste de l'Inde, chef de rubrique Société internationale. Merci à vous, chers voisins. Merci à l'équipe de 7 milliards de voisins, Sigrid Azerwal, Delphine de Danius, Romain Dubrac, Arthur Toussou, Alice Ménard et Emmanuel Bastide, encore une fois pour sa confiance. 7 milliards de voisins touche à sa fin. J'ai été heureuse de vous accompagner durant ces deux jours. Demain, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour parler de la fratrie, quand les aînés doivent s'occuper des petites sœurs et des petits frères. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine. Nous retrouver aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci, chers voisins. Bye.